En séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bonjour, comme il est d'usage à l'Académie des sciences morales et politiques, tout nouvel élu académicien doit donner, devant l'Académie réunie en séance et dans la grande salle des séances, lecture de la notice sur la vie et l'œuvre de son prédécesseur, tandis que le président de la séance rappelle le parcours biographique du nouvel élu. C'est ainsi que le lundi 26 novembre 2012, Marianne Bassid-Bruguière a accueilli Jean Tirole, élu à l'Académie, le 27 juin 2011. Elle a d'abord rappelé que la section économie existe depuis la fondation de l'Académie. Puis elle a retracé le très brillant parcours de Jean Tirole, ses travaux, ses recherches et sa réputation incontestée en économie comportementaliste. Dans cette émission, vous entendrez donc en premier le discours des éléments biographiques de Jean Tirole, puis dans une seconde partie, celui-ci lire la notice sur la vie et l'œuvre du célèbre prix Nobel d'économie Maurice Allais. Entrez grâce à Canal Académie dans la grande salle des séances de l'Institut de France.
Monsieur le chancelier, monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers confrères, c'est un plaisir pour moi de vous introduire à cette dernière étape du rite d'initiation au sein de notre Académie, la lecture d'une notice sur la vie et les travaux de votre prédécesseur Maurice Allais. Et je suis heureuse de saluer ici la présence de sa fille, Madame Christine Allais. La section d'économie est de fondation dans notre compagnie. Maurice Allais siégeait dans cette section sur un fauteuil de financier, celui d'Adolphe Vuitry, gouverneur de la Banque de France. Vuitry avait été élu à la nouvelle section dite politique, administration, finance, créée par le Second Empire en 1855, en vue de doter l'Académie des sciences morales et politiques d'un effectif égal à celui des autres académies. Lorsque cette section fut supprimée en 1866, ses membres furent distribués entre les sections existantes et Vuitry passa dans la section d'économie politique, dite dès lors « économie politique, finance, statistique », l'ordre actuel des termes date de 1888. Son fauteuil s'illustra d'ailleurs surtout par des financiers ou penseurs des finances, son gendre, Henri Germain, président fondateur du Crédit Lyonnais, Jacques Rueff. La monnaie était au cœur des recherches de Maurice Allais, mais le champ de ses investigations s'étendait avec autorité à l'ensemble des domaines de l'économie et même bien au-delà, puisque certains de ses travaux touchaient aussi à des questions intéressant la physique. Il a été le premier Français lauréat du prix Nobel d'économie. Le prestige de cette personnalité imposante rendait difficile de lui trouver un successeur. Heureusement, notre regretté confrère Pierre Tabotoni, toujours à l'affût des percées nouvelles et des jeunes talents, avait repéré depuis longtemps le travail original qui se faisait à Toulouse à l'Institut d'économie industrielle fondé par Jean-Jacques Lafont en 1990. Il s'était rendu sur place pour juger sur pièce, m'a-t-il confié un jour. Il avait évidemment attiré l'attention de ses confrères sur ce fleuron de la recherche universitaire. Les années n'avaient fait qu'accroître la réputation mondiale de cette école d'économie de Toulouse dont vous êtes un maître incontesté. Il était naturel que la section d'économie politique, statistique et finance vienne vous solliciter de rejoindre ses rangs. Du reste, elle vous avait attribué le prix Charles Dupin dès 1996 et le prix Zérilly Marimo en 2004. Vous étiez jeune, vous l'êtes toujours, attaché au terroir provincial et familier du vaste monde, savant illustre et inventif, l'académicien idéal. En effet, vous êtes né à Troyes en 1953. Vous avez fait vos études à Nancy, vous êtes entré à l'école polytechnique. Là, Roger Guenry a donné un sens nouveau à votre passion innée pour la mathématique en vous insufflant la vocation de l'économie. Vous avez intégré le corps des ingénieurs des ponts et chaussées qui vous a procuré, dites-vous, les moyens d'accomplir votre passion de la recherche. En 1978, vous soutenez à l'Université de Paris 9 Dauphine un doctorat de troisième cycle en mathématiques de la décision intitulé « Essai sur le calcul économique public et sur le taux d'actualisation ». C'est au MIT que vous obtenez en 1981 un doctorat d'économie sous la direction d'Eric Maskin, prix Nobel d'économie en 2007. Vous aviez rencontré Jean-Jacques Lafont et noué amitié en 1980 lors d'un congrès de la Société d'économétrie à Rio de Janeiro. En 1981, vous revenez en France élaborer avec lui de nouvelles théories de l'information et de l'économie industrielle au sein du Centre d'enseignement et de recherche en analyse socio-économique de l'École nationale des ponts et chaussées et du CNRS. En septembre 1984, le MIT vous offre une chaire que vous quittez en 1992 pour vous établir à Toulouse et prêter main-forte à Jean-Jacques Lafont qui construit un nouveau pôle de la recherche économique. Vous y devenez directeur scientifique de l'Institut d'économie industrielle, lancé en 1990 et financé en majeure partie par les entreprises industrielles, tout en poursuivant vos recherches personnelles au sein du groupe de recherche en économie mathématique et quantitative, le GREMAC. Au décès prématuré de votre ami Jean-Jacques Lafont en 2004, vous avez accepté de prendre la relève. C'est grâce à votre travail intense sur tous les fronts, des ingrates et multiples besognes administratives aux conceptions théoriques nouvelles, grâce à votre vision dynamique de l'avenir, grâce à l'esprit pionnier et d'émulation que vous avez su perpétuer au sein des équipes logées dans la vieille manufacture des tabacs à Toulouse, qu'a pu prendre corps en 2007, l'École d'économie de Toulouse, plus connue sous le signe TSE, Toulouse School of Economics. Elle fédère l'Institut d'études industrielles et trois laboratoires de pointe, votre GREMAC, le LERNA, le Laboratoire d'économie des ressources naturelles, et l'ARCAD, Atelier de recherche quantitative appliquée au développement économique, autour d'un projet comportant la formation des étudiants dès la licence dans une filière d'excellence mais ouverte, associée à un pôle de recherche d'avant-garde, le tout soutenu par les fonds publics et privés de la Fondation scientifique Jean-Jacques Lafont que vous présidez. TSE, qui compte plus de 100 chercheurs et plus de 150 doctorants, dont les deux tiers étrangers, a déjà gagné le 11e rang mondial et le 3e rang européen pour les études économiques, après la London School of Economics et la faculté d'économie d'Oxford. Depuis 30 ans, vous avez en réalité un pied de chaque côté de l'Atlantique. Vous continuez au MIT un enseignement régulier comme visiting professor, et vous êtes invité par les meilleurs centres mondiaux à donner des cours et des conférences à un rythme qui s'accélère, 2 fois par an avant 2000, 7 fois par an aujourd'hui. Vous croisez sans cesse les réseaux pour suivre exactement le mouvement des recherches, pour repérer et tester les nouveaux acquis en vue d'inaugurer des pistes d'enquête plus subtiles et originales, ou encore pour recruter les meilleurs talents. Votre vocation est la recherche, mais vous la pratiquez comme un ingénieur que vous aimez être. Et vous avez été promu en 2003 ingénieur général des ponts et chaussées. vous êtes attentif au concret, à l'utilité, même si votre prédilection est l'élaboration de modèles théoriques. Il en résulte une œuvre protéiforme. Dans les institutions que vous avez su construire, l'esprit qui les anime contribue autant au succès que les modalités d'organisation. Votre concours est sollicité par de très nombreuses instances, savantes ou très techniques, nationales ou internationales. Vous avez siégé au European Research Council Panel, aussi bien qu'à la Commission de tarification de l'électricité. Vos publications comptent plus de 220 articles, dont 180 parus en anglais à l'étranger, et 11 ouvrages, la plupart publiés d'abord aux États-Unis, mais avec aussi une version française et, invariablement, une traduction japonaise et chinoise. Votre théorie de l'organisation industrielle, parue en 1988, est devenue un classique universel pour guider la régulation à mettre en place à la suite de l'ouverture à la concurrence des industries de réseau, télécommunications, électricité et autres. La réglementation prudentielle des banques de 1994, Financial Crisis, Liquidity and the International Monetary System et The Theory of Corporate Finance, publiées à Princeton en 2002 et 2006, hélas sans version française, ont achevé de vous élever au premier rang mondial des spécialistes de l'économie. Vos recherches, dont je ne puis ici que tracer une esquisse succincte, sont parties de l'économétrie, qui régnait en déesse suprême à l'époque de vos études, afin d'en corriger les apories à la lumière des questionnements d'autres disciplines. Votre maître, Eric Maskin, a attiré votre attention sur la fécondité de deux théories. La théorie des jeux, qui décrit des choix de stratégie par des acteurs qui sont en situation d'interdépendance et ont des intérêts divergents, et la théorie de l'information, dite aussi, selon l'application qu'on en fait, théorie des incitations, théorie des contrats, théorie du signal, théorie du principal agent. Elle consiste dans l'utilisation stratégique d'informations privilégiées par des acteurs. Vous avez développé des outils très pointus pour décrire, analyser et surtout prévoir les stratégies de différents acteurs économiques dépendant les uns des autres dans des situations très complexes, et notamment lorsque la situation entre ces acteurs se reproduit dans le temps. On vous doit aussi des avancées fondamentales pour modéliser les situations où les protagonistes ne disposent pas tous de la même information. Vos travaux offrent aux entreprises et aux autorités des outils précieux pour faire les bons choix et anticiper ceux des autres. Vous avez vous-même appliqué vos modèles à une multitude de problèmes concrets, la pollution, le chômage, la finance, avec une indomptable alacrité. Dans les travaux que vous menez actuellement dans le champ d'une économie comportementale, où vous convoquez non seulement la sociologie, la psychologie, mais les acquis des neurosciences, vous déployez une fois de plus cette intelligence rare, capable d'inventer, mais aussi de retenir et de structurer une somme hallucinante de travaux scientifiques, par laquelle vous définit très justement un de vos collègues. Vous êtes inondé de prix et d'honneurs dont l'énumération serait trop longue. Parmi les distinctions étrangères, je ne citerai que le doctorat honoris causa de l'Université libre de Bruxelles de 1986, suivi par bien d'autres. La présidence de la Société d'économétrie en 1998, le prix de la Fondation Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en 2008 et en 2010, le prix d'application quantitative innovante du Chicago Mercantile Exchange et de l'Institut de recherche en sciences mathématiques de Berkeley. En France, je me bornerai à rappeler la médaille d'argent du CNRS en 2002, la médaille d'or en 2007 et le prix Lévi-Strauss en 2010. Malgré toute cette gloire, vous demeurez modeste. Et malgré vos charges, vous savez rester disponible pour les causes savantes et curieux d'apprendre. Depuis votre élection le 27 juin 2011, nous avons apprécié de vous écouter lors d'une communication et d'intervention à des colloques, notamment celui à la mémoire de Maurice Allais, votre regretté prédécesseur. Nous nous réjouissons de compter en vous un esprit tout aussi vigoureux et original que le sien, bien que sur un mode très différent. Je vous laisse maintenant la parole pour la lecture de votre notice sur la vie et l'œuvre de Maurice Allais.
Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier de l'Institut, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs de la famille de Maurice Allais, Mesdames, Messieurs, la réputation et l'influence d'une académie, aussi prestigieuse soit-elle, et la nôtre n'a pas à rougir en la matière, ne tient qu'à la qualité de ses membres et à l'alchimie complexe des interactions entre ces derniers. Nous sommes aujourd'hui réunis pour honorer l'œuvre d'un des membres de notre académie, qui fut aussi l'un des grands savants français du XXe siècle. Je me dois d'évoquer sa vie et son œuvre avec humilité, eu égard à la personnalité, et aussi au fait que d'autres, y compris certains de nos confrères, comme ses étudiants Marcel Boiteux et Thierry de Montbrial, l'ont fait beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Si ses écrits m'ont profondément influencé, je n'ai pas été son étudiant. De fait, je n'ai jamais rencontré Maurice Allais, ce que bien évidemment je regrette. J'ai presque eu cette opportunité lorsqu'en octobre 1998, j'acceptais de commenter son article de 1947 sur l'économie du ferroviaire lors d'un colloque à l'École des Mines. Malheureusement, il fut retenu par d'autres obligations et m'envoya une gentille lettre pour l'excuser. Je voudrais évoquer différentes facettes de sa vie et de son œuvre. L'homme, l'enseignant, l'autodidacte et le savant universel, sa philosophie de la recherche, ses contributions à la science économique et à la politique économique, et enfin l'académicien. Je voudrais commencer par l'homme. Maurice Allais est né en 1911 dans une famille modeste qui tenait une crèmerie dans le 14e arrondissement. Son père décéda 4 ans plus tard dans un camp de prisonniers en 1915. Pupille de la nation, il vécut chez ses grands-parents à Bourg-la-Reine entre 12 ans et 19 ans. Passionné d'histoire dans ses études secondaires au lycée La Canale, il voulut faire l'école des chartes, mais finalement opta sur le conseil de son professeur de mathématiques pour des études scientifiques et fit sa taupe à La Canale, puis à Lullegrand. Son admission à l'école polytechnique, qu'il avait préparée en couchant sur un lit de fer déplié dans la petite boutique de bonneterie de sa mère, fut un moment très important dans sa vie. Admis à l'école polytechnique en première année de classe préparatoire, il redoubla pour rentrer mieux classé, puis sortit major de l'école dans le corps des mines. Et il fut affecté au service des mines de Nantes en 1937. Marqué par un voyage dans une Amérique en pleine dépression lors de sa scolarité à Lix, Maurice Allais entreprit une lecture solitaire de ce qu'il appela ses maîtres à penser, Walras, Pareto et Fischer. Et dans l'année suivante la démobilisation de juin 1940, commença à rénover des pans entiers de la théorie économique. Déjà, nous rencontrons ici le trait d'un personnage hors norme, dont l'exploit est quasiment impensable de nos jours. Seul dans une ville de province, ayant un service non académique à remplir, même si de la guerre avait résulté un allègement administratif, et doté de peu de connaissances en économie, il conçoit son ouvrage de 1943 à la recherche d'une discipline économique, 900 pages, reprographiées au duplicateur à alcool, et il jette les bases d'économie intérêt paru en 1947 et dédié à Irving Fisher. Ces ouvrages, qui sont les deux principales œuvres citées par le comité Nobel en 1988, ne furent à l'époque publiées que grâce à une souscription auprès de contributeurs individuels. Et s'ils restèrent longtemps méconnus de la communauté scientifique internationale, nous y reviendrons, ces travaux influencèrent plusieurs générations d'économistes français, indirectement ou plus directement, comme dans le cas de ses étudiants Gérard Debreu, qui reçut le prix Nobel pour ses contributions à la théorie de l'équilibre général, sujet du livre de 1943, et Edmond Malinvaux, auteur en 1953 d'un remarquable article sur la théorie du capital, sujet du livre de 1947. Je ne peux ici résister au plaisir de raconter cette anecdote relatée dans l'autobiographie de Marcel Boiteux, Haute Tension, qui, ceci dit en passant, y fait un vibrant hommage à Maurice Allais. Juste après la guerre, deux étudiants de Maurice Allais, Marcel de Boiteux et Gérard Debreu, étaient en concurrence pour une bourse Fulbright permettant un séjour aux États-Unis. Allais en avait demandé deux, mais n'en obtenut qu'une. Ils décidèrent alors de tirer à pile ou face pour choisir le gagnant. Gérard Debreu remporta le tirage au sort, et la suite fait partie de l'histoire, dit-on. Gérard Debreu fit une longue carrière à Berkeley, prit la nationalité américaine et reçut le prix Nobel, tandis que Marcel Boiteux, après avoir fait des contributions décisives au calcul économique, dirigea EDF de 1967 à 1987. Péripéties que Marcel Boiteux relate avec facétie, mais non sans justesse. Je cite « À pile ou face, le destin ne tient-il qu'au hasard de la retombée d'une pièce de monnaie ? Il est vain de réécrire l'histoire, mais je ne serais pas resté 40 ans à enrichir patiemment la mathématique du modèle de l'optimum. Et je vois mal mon camarade Debreu, avec son caractère tranché, négocier avec des délégations syndicales pendant des journées entières pour aboutir à un résultat. Toujours est-il que Debreu parti, je devins l'assistant de Maurice Allais à l'École des Mines. » Maurice Allais, effectivement, entra à l'École des Mines comme professeur en 1944. Il entra au CNRS comme chercheur en 1946 et y restera jusqu'en 1980. Deux institutions qui surent détecter son talent. Sa future épouse, Jacqueline, économiste elle-même, fut son étudiante, puis sa collaboratrice dès le début des années 50 et par la suite participa à tous ses travaux au cours de leurs 43 années de mariage, 1960-2003. Leur fille Christine fit graver sur la tombe de Maurice Allais et à la demande de ce dernier, l'inscription, après la mention de la médaille d'or du CNRS et du prix Nobel, avec le soutien efficace et permanent de Jacqueline Allais, sa collaboratrice de toujours. Même si la plupart de ses travaux demeurent longtemps méconnus, Maurice Allais jouit assez tôt d'une réputation internationale, comme le témoignent par exemple ses élections à plusieurs sociétés savantes étrangères, lui qui n'écrivait pratiquement jamais qu'en français. Par exemple, il fut élu fellow de la prestigieuse Société d'économétrie dès 1949, et devint membre de l'Institut international de statistique en 1951. La consécration suprême vint tard. Il reçut la médaille d'or du CNRS en 1978, puis le prix Nobel, 10 ans plus tard, à 77 ans, après même le Nobel de son étudiant Gérard Debreu en 1983. Même s'il eut la chance de pouvoir continuer une vie scientifique intense, tard dans sa vie, une reconnaissance plus précoce n'aurait été que méritée. Plusieurs facteurs ont contribué à cet oubli du comité Nobel et au désintérêt de la communauté économique plus généralement. Son usage de la langue française lui coupait une majeure partie de son lectorat potentiel. De fait, mis à part ses travaux, les dernières contributions à la science économique écrites dans une langue autre que la langue scientifique internationale sont un article en français de Marcel Boiteux en 1956 et en 1965, un article en allemand de Reinhard Zelten, théoricien des jeux et prix Nobel 1994. Il faut aussi admettre que ses écrits pouvaient être difficiles d'accès du fait de notations non conventionnelles ou de choix d'emphase discutables. Sa découverte du modèle à génération imbriquée se trouve dans un appendice de 141 pages, commençant à la page 631 de son livre de 1947. Il n'est pas surprenant que ce modèle maintenant classique, utilisé par exemple pour étudier la viabilité de la dette de l'État ou les transferts intergénérationnels par des régimes de retraite, a été attribué à un article de Samuelson de 11 ans postérieur. Dans le chapitre 8 du même livre, il invente le modèle de demande transactionnelle pour la monnaie, généralement attribué à Baumol et Tobin pour leur contribution des années 50. Et de façon caractéristique, développe cette théorie dans deux notes de bas de page. Il fallut attendre les années 80 et Bertrand Munier pour établir la précédence, gracieusement reconnue par les deux chercheurs américains, comme d'ailleurs Samuelson l'avait fait pour le modèle à génération imbriquée. Je voudrais passer maintenant à Maurice Allais, l'enseignant. Maurice Allais enseigna à l'École des Mines, à Paris 10, et à l'Institut de la Statistique. Il enseigna également à l'Institut des Hautes Études Internationales de Genève de 1967 à 1970. Il fut professeur invité à l'Université de Virginie à Charlottesville en 1958-59. Il refusa en 1970 une offre alléchante de cette dernière université, allant contre l'avis de son épouse Jacqueline et faisant suite à une réflexion approfondie de plusieurs mois, concrétisée notamment par un devis de déménagement. L'enseignement fit l'objet, chez lui, d'une passion aussi dévorante que la recherche. Le nombre et réalisation de ses étudiants font que je ne pourrai qu'aborder le sujet, ici, faute de temps. Je ne peux que vous renvoyer aux nombreux témoignages de ses étudiants et amis dans le livre « Un savant méconnu » paru en 2002. Non seulement ses travaux attirèrent de nombreux étudiants français talentueux vers l'économie, Jacques Le Sourne et Marcel Boiteux, par exemple, renvoient leur choix de carrière à la lecture de l'ouvrage de 1943. Il forma aussi des générations d'ingénieurs économistes qui partirent dans la recherche, comme Gérard Debreu, dans l'entreprise et la haute fonction publique, ou souvent passant de l'un à l'autre. Jacques Le Sourne, Marcel Boiteux, Thierry de Montbrial, Hubert Lévy-Lambert, Edmond Malinvaux, Lionel Stelleru et bien d'autres. Je dois quand même évoquer un point noir dans sa carrière d'enseignant. En 1959, un fonctionnaire habitué des cabinets ministériels lui fut préféré pour enseigner l'économie à l'école polytechnique. Pour comble d'insultes, le conseil de perfectionnement de l'IX reconnut unanimement que le classer second n'était pas raisonnable eu égard à sa stature et décida de classer second un troisième candidat. De telles pratiques subsistent. Par exemple, j'ai observé une stratégie analogue il y a une quinzaine d'années lorsqu'un grand économiste nord-américain fit l'erreur de vouloir s'installer en France. Maurice Allais fut profondément blessé par cette décision très injuste d'une école qu'il vénérait et qui fut pour lui un tremplin social. Maurice Allais, l'autodidacte, est le dernier savant universel. Un des paradoxes d'Allais, dont il tira d'ailleurs une certaine fierté, est qu'il fut un autodidacte et un savant universel à une époque où les connaissances nécessitaient déjà un apprentissage et une sélection intense. La norme scientifique est en effet aujourd'hui une extrême spécialisation au sein même de chaque discipline scientifique. Même en prenant quelques décennies de recul, le parcours de Maurice Allais sort complètement de l'ordinaire. Non seulement fut-il un touche-à-tout génial de l'économie, mais il s'adonna aussi à sa première passion, l'histoire et la politique, écrivant des livres sur les inégalités et la civilisation, les origines des deux guerres mondiales, les bouleversements à l'Est, l'Algérie des Vian, ou encore un essor et déclin des civilisations, non publiés. Il consacra aussi beaucoup de temps de recherche à la physique et à la recherche opérationnelle, disciplines pour lesquelles il obtient des prix scientifiques, par exemple aux États-Unis, le prix de la Gravity Foundation ou le Launceston Prize. Il s'intéressa jusqu'aux mathématiques, passant beaucoup de temps, dans les années 60, à rechercher la démonstration du dernier théorème de Fermat, qui ne fut finalement prouvé qu'en 1994 par Andrew Wiles. Pour des raisons de compétence, je ne commenterai bien sûr que ses travaux en économie. Je ne conseillerais à aucun étudiant de poursuivre la stratégie de carrière de Maurice Allais. Et de fait, on peut se demander comment elle put mener à un parcours aussi accompli. La réponse à cette question est double, une intelligence hors norme et une soif de savoir qui d'ailleurs le conduisit à rester très actif en recherche tout près du centenaire. Son autoportrait d'un autodidacte est de fait le sous-titre d'un livre intitulé « La passion de la recherche ». Sa philosophie de la recherche. Dans son autoportrait, Maurice Allais décrit une vision très moderne de la recherche. Disciple de Poincaré, il se donne pour but d'introduire de l'ordre et de dévoiler des relations stables, des lois invariantes. En opposition à certaines vues populaires dans les milieux intellectuels français, il insiste sur l'invariance des données psychologiques des individus en tout temps et en tout lieu et embrasse l'individualisme méthodologique. Pourfendeur de vérité établie, dont les défenseurs furent représentés par une hydre sur son épée d'académicien, il se fait l'apôtre de théories basées sur des postulats solides et jugées à la fois sur la plausibilité de leurs hypothèses et sur la validité de leurs prédictions. Il adopte une vision épistémologique classique basée sur trois piliers, formulation précise des hypothèses théoriques, déduction des conséquences de ces hypothèses et analyse des données de l'observation. Plus spécifique à la recherche en sciences économiques, Il distingue entre les objectifs, données issues de la politique, et les moyens, objets d'une véritable science et permettant d'atteindre ces objectifs au moindre coût. Il anticipe aussi l'évolution de ces 20 dernières années en encourageant les économistes à se rapprocher des autres sciences sociales, travaillant lui-même sur la notion de rationalité face à l'incertitude et sur une approche comportementaliste de la théorie de la monnaie. Je voudrais maintenant passer à ses contributions à la science économique. L'exposé ici sera un peu technique et je prie les non-économistes de bien vouloir m'en excuser. Cependant, la technicité, je pense, est requise pour bien comprendre le niveau de sa contribution. Paul Samuelson, un des grands économistes du XXe siècle, et dont les travaux et ceux de Maurice Allais se sont chevauchés, lui rendit en 1988 sans doute le plus beau des hommages. Je cite, « Allais est une source de découvertes inédites et originales. Si ses premiers ouvrages avaient été écrits en anglais, toute une génération de théories économiques aurait connu une évolution différente. » Ce n'est pas l'occasion de traiter en détail des contributions de Maurice Allais, mais il est utile d'en esquisser l'étendue et l'importance. Contraint par ses statuts de récompenser des travaux spécifiques plutôt qu'une œuvre, le comité Nobel couronna Maurice Allais pour ses travaux de pionnier sur la théorie des marchés et l'utilisation efficace des ressources, c'est-à-dire pour ses ouvrages de 1943 et 1947. Le livre de 1943 porte sur la théorie de l'équipe générale. Il démontre avec beaucoup plus de généralité que ses prédécesseurs l'équivalence entre équilibre de marché et optima de Pareto. Les optima de Pareto, ce sont les allocations des ressources qui ne peuvent faire l'objet d'améliorations pour tous, étant donné les contraintes sur les ressources de l'économie. L'intuition de ce théorème est que les consommateurs, dans leur choix de consommation et d'épargne, internalisent le coût marginal pour les entreprises de leurs décisions, tandis que ces dernières continuent de produire jusqu'à ce que leur coût marginal excède la propension à payer des consommateurs. En d'autres termes, les signaux prix sont les bons. Concrètement, cet ouvrage amena Allais à prendre position pour une séparation entre l'efficacité et la redistribution. L'efficacité économique est obtenue au niveau de la production par une tarification au coût marginal, impliquant éventuellement un financement de l'État en cas de rendement d'échelle croissant, et au niveau de la consommation par un taux de TVA uniforme. La redistribution, elle, est assurée par l'impôt sur le revenu. La version moderne de cette idée de séparation entre efficacité économique et redistribution est le théorème d'Atkinson et Stiglitz en 1976. Le résultat d'équivalence entre équilibre concurrentiel et optima de Pareto, qui est une version rigoureuse de l'idée d'Adam Smith de main invisible du marché, nécessite des hypothèses fortes, dont le relâchement a fait l'objet de beaucoup de recherches depuis. Les agents économiques ne doivent pas avoir de pouvoir de marché, ils sont petits par rapport au marché et donc ne peuvent pas influer sur les prix, sur les termes de l'échange. Donc en particulier, les marchés ne doivent pas être oligopolistiques. Les agents doivent être parfaitement informés et rationnels et ne peut y avoir d'effet externe ou de rendement d'échelle dans la production. C'est un peu le modèle de gaz parfait de l'économie sur lequel se greffent aujourd'hui des recherches plus fines sur les défaillances de marché. Ce livre, au passage, contient aussi le premier traitement de la stabilité du tâtonnement valrasien à partir des méthodes de Lyapunov, 15 ans avant les célèbres travaux d'Arrow et Hurwitz, aussi prix Nobel. Plus important encore, à mon avis, est l'ouvrage de 1947, au sujet duquel je commencerai par une anecdote. En 1985-86, alors que j'enseignais au MIT, mon collègue Peter Diamond, prix Nobel 2010, vint me voir. Grand spécialiste, entre autres, du modèle à génération imbriquée, sur lequel il a fait une contribution fondamentale en 1965, il découvrait Maurice Allais et s'apprêtait à relater sa contribution au prix Nobel. Cependant, son français appris au lycée était, selon lui, rusty et ne pouvait pas croire à ce qu'il était en train de lire. Il s'avérait que son français était tout à fait adéquat. L'appendice dont Peter Diamond me parlait, et qu'à ma grande honte je découvrais également, contenait de nombreux trésors cachés dans ces 141 pages très denses. 5 au hasard, le modèle à génération imbriquée, modèle dit de Samuelson-Diamond, et son implication que l'équilibre, même concurrentiel, peut être inefficace, dû à une suraccumulation de capital si le taux d'intérêt est plus faible que le taux de croissance de l'économie. La règle d'or, dite de Phelps, suite à un article de 1961, qui détermine le taux d'épargne maximisant le taux de croissance soutenable d'une économie, montrant que ceci est réalisé quand le taux d'intérêt est justement égal au taux de croissance de l'économie. Troisième pépite, l'absence d'équivalence ricardienne, qui implique en particulier que l'émission de dette publique n'est pas neutre économiquement. L'équivalence ricardienne voulant qu'un accroissement de la dette publique soit neutre, car compensé par une augmentation de l'épargne des consommateurs afin de payer les impôts futurs résultant de l'émission de dette publique. Quatrièmement, l'accroissement des taux d'intérêt dû à la rente foncière. Et cinquièmement, la possibilité d'indétermination de la valeur de la monnaie. Il est intéressant de noter que ce livre ne fit l'objet d'aucune recension dans les revues économiques françaises. Après cette exploration de la théorie du capital, Maurice Allais présente en 1952 un colloque de la Société d'économétrie à Paris, puis en 1953 dans un article dans Econometrica, une contribution, elle, beaucoup plus remarquée sur la théorie des choix en avenir risqué. Il utilise une approche expérimentale pour montrer que les postulats de la rationalité bayésienne de von Neumann, Morgenstern et de Savage ne sont pas satisfaits en réalité. Les individus exhibent une préférence marquée pour la certitude. 40 ans avant la Cumulative Prospect Theory des psychologues Kahneman et Tversky, il apporte les éléments méthodologiques de la transformation non linéaire des probabilités. L'aspect comportementaliste de ses travaux, ainsi que son introduction ultérieure dans la théorie monétaire de la notion de mémoire imparfaite ou l'oubli, en font un des précurseurs de l'économie comportementaliste moderne. Maurice Allais consacra aussi beaucoup de temps, beaucoup de son énergie à construire une théorie monétaire. Il affine la théorie quantitative de la monnaie, théorie selon laquelle la demande de monnaie est proportionnelle à la dépense des agents économiques et dépend aussi de leur anticipation du taux de croissance. Il y introduit des aspects comportementalistes. Premièrement, il distingue le temps physique du temps psychologique. Ensuite, il suppose que les agents économiques ont une mémoire imparfaite du passé et que leur oubli augmente avec le temps. De plus, le taux d'oubli est plus important quand les variables économiques évoluent plus rapidement. Par exemple, lors d'une hyperinflation, où serait-on tenté d'ajouter aujourd'hui dans les années suivant l'introduction de l'euro? Cette fonction complexe de la demande de monnaie, juxtaposée à une fonction d'offre de monnaie, est alors introduite dans un modèle dynamique donnant naissance à des cycles dus à des décalages dans les réactions des agents. Côté offre de monnaie, il recommanda une forme extrême de l'évolution actuelle des régulations de Bâle, la séparation entre banques de prêts financées longs et banques de dépôt, la création monétaire restant l'apanage de l'État. Contrairement aux autres travaux évoqués ici, cette théorie reste aujourd'hui méconnue. Il faut dire que la notion de mémoire imparfaite ne fait pas vraiment partie du registre de la théorie macroéconomique. Une exception à cette règle est un article de 2002 de Sandil Munesan, professeur à Harvard, qui utilise les développements ultérieurs en psychologie pour décrire plus finement les mécanismes d'oubli et en tire des implications pour la dynamique de la consommation agrégée. Cet article ne cite pas les travaux d'Allais. Malgré leur grande originalité, ces travaux, eux aussi, paraissent passer inaperçus dans la communauté scientifique internationale. Comme le remarque Roger Guenry, professeur au Collège de France, dans son introduction d'un ouvrage en l'honneur de Maurice Allais, paru en 2010, l'isolement relatif d'Allais lui fit ignorer la révolution en théorie macroéconomique de la problématique des anticipations tournée vers l'avenir et non seulement vers le passé. Cela rendait difficilement recevable sa théorie. Enfin, Maurice Allais revint souvent sur la théorie des surplus qu'il avait développée dans le livre de 1943 et qui avait inspiré, entre-temps, des articles importants de Gérard Debreu et de Marcel Boiteux au début des années 50. Son livre, « La théorie générale des surplus », paru en 1981, expose une théorie très générale de la notion de surplus, tout en anticipant la théorie de microstructures de marché et la possibilité de marchés non centralisés où coexistent des prix multiples. Dans sa recension du livre, Roger Guenry utilise d'ailleurs un aphorisme d'Edgar Morin pour caractériser les travaux de Maurice Allais sur le surplus. Un grand esprit, fort avec des idées fixes. De fait, sur ce sujet comme sur d'autres, Maurice Allais n'aura de cesse de revenir sur et d'améliorer ses travaux originaux. Je voudrais passer maintenant à la contribution de Maurice Allais au débat économique. Si dans un moment de doute, en 1978, il écrit qu'il est plus soucieux de comprendre ce que font les hommes que d'essayer de les convaincre, Maurice Allais fut pour autant toujours animé par la conviction que l'homme de science ne peut se désintéresser des problèmes fondamentaux de son temps et qu'il peut légitimement intervenir dans les grands débats de la société où il vit. Il voyait une connivence avec un parti politique comme une corruption de l'activité intellectuelle. Évidemment marqué par le décès de son père lors de la Première Guerre mondiale, Maurice Allais fut un Européen convaincu. Il participa à différentes instances, comme l'Union européenne des fédéralistes, organisation œuvrant à la création d'une fédération européenne dotée d'institutions supranationales et de pouvoirs souverains limités, le mouvement pour l'Union atlantique ou la communauté économique du charbon et de l'acier. En 1949, il argue qu'il est impossible de surmonter des obstacles mettant en jeu des intérêts nationaux opposés, autrement qu'en créant un gouvernement supranational ayant des compétences pour toutes les questions susceptibles de créer des oppositions d'intérêts entre les États membres. Il écrit aussi que l'union économique n'est réalisable que s'il y a fédération politique préalable. Il énonce alors les champs de décision devant faire l'objet d'une subsidiarité. Partisan donc d'un abandon des droits souverains et de la construction d'une union politique, il préconisait aussi une monnaie unique, mais préférait qu'elle soit précédée par une union fédérale. Il avertit en 1960, dans son ouvrage « L'Europe unie, route de la prospérité », qu'une union monétaire implique certaines contraintes, telles que l'impossibilité de monétiser les dettes souveraines, et crée certains dangers, tels qu'une montée du chômage dans les pays en perte de compétitivité du fait de la mobilité limitée du facteur travail. Il s'opposa en 1992 au traité de Maastricht et par ailleurs, il recommanda le contrôle du taux de croissance de l'offre de monnaie afin d'en assurer la stabilité. Comme le rappelle Thierry de Montbrial, un épisode malheureux de Maurice Allais, l'homme public, et sa classification comme protectionniste, suite à des articles publiés dans la presse nationale après son prix Nobel. Sa pensée, même si je ne la partage pas ici, était beaucoup plus subtile et intéressante que le protectionnisme primaire qu'on a voulu lui attribuer. Elle était fondée sur une analyse fine des facteurs, pouvant réduire l'efficacité du libre-échange, tels que l'instabilité excessive des taux de change ou l'existence de forts différentiels salariaux. Il s'inquiétait des conséquences des échanges entre pays de compétitivité trop différentes et plaida pour un tarif européen commun. Bertrand Munier, dans Commentaire, retrace sa vision de l'État, libre et donc difficilement classifiable. Ami de Pierre Massé, Maurice Allais croit en une synthèse entre libéralisme et socialisme par la voie d'un socialisme concurrentiel. Il se définit comme un social-libéral. Valracien, il pourfend les rentes, rentes foncières, rentes éducatives, empêchant la promotion sociale, et considère que la démocratie se doit de promouvoir la capillarité sociale. Il s'oppose à la taxation des gains justifiés, et il s'oppose en particulier à l'impôt sur le revenu. Il prend en 1943 position en faveur de la nationalisation des terres et revint dessus sur cette position par la suite, en proposant de limiter les rentes, non plus par la nationalisation, mais par un impôt sur le capital, assis sur la valeur de tous les biens physiques durables. Sa proposition de nationalisation lui valut un conflit avec Hayek et une non-adhésion à la société du Mont Pèlerin qu'il avait pourtant contribué à créer. Opposé à la retraite par capitalisation pure, il insista aussi sur le rôle de l'État dans la provision des retraites. Allais appartient aussi à une longue tradition des ingénieurs économistes français, celle des Dupuis, des Cournot et de bien d'autres. À ce titre, il a formé des étudiants, comme Marcel Boiteux ou Jacques Lesourne, qui à la fois contribuèrent au calcul économique et à la tarification dans les secteurs régulés, et eurent des responsabilités importantes à EDF, Charbonnage de France ou autres entreprises du secteur para-étatique. Lui-même contribua à la tarification des transports et aux critères de choix des investissements miniers. Ces recommandations en 1949 sur la fermeture des mines de charbon très inefficaces et sa substitution par du charbon importé furent adoptées beaucoup plus tard après un long débat. L'article de 1947 sur le problème de la coordination des transports et la théorie économique que je mentionnais dans mon introduction capture un certain nombre d'idées clés de la pensée d'Allais dans le domaine qui, 65 ans plus tard, sont toujours d'actualité, comme d'ailleurs cette théorie monétaire et sa théorie européenne et beaucoup d'autres théories. Tout d'abord, il exprime une confiance limitée dans la planification centrale et par là même dans la demande faite par la SNCF d'une régulation du fret. Je cite « La pression des faits a amené les esprits à penser que la concurrence ne menait qu'à des désordres et à envisager des solutions d'autorité par voie de planification centrale. Mais une telle orientation ne pouvait que conduire à de graves pertes de rendement social. » C'est-à-dire, Allais avait compris, bien avant Stigler en 1971, que la régulation est là le plus souvent pour protéger les entreprises contre la concurrence que pour protéger les consommateurs, ce qui est sa raison d'être. Selon Maurice Allais, pour le transport des marchandises, la route est naturellement concurrentielle et doit juste être soumise à une taxation des externalités. Le transport routier des voyageurs, par contre, devant faire l'objet d'une concession révocable au moins 10 ans. Pour la gestion de la SNCF, il adopte un point de vue incitatif. Découpage en unités indépendantes et concurrence par étalonnage entre ces unités, agents fortement intéressés financièrement à la réduction des coûts et absence de subventions de l'État. Sur la tarification, il part de la notion de coût marginal, ou plus précisément de tarification en heure de pointe que lui et Boiteux parviendront plus tard à mettre en œuvre. La tarification bleu-blanc-rouge à EDF et à la SNCF. Il fait quelques remarques prémonitoires sur le traitement de la dépréciation économique, sujet qui sera repris dans les débats sur les coûts échoués dans la réglementation des télécoms 50 ans plus tard. Il recommande une tarification au coût marginal assortie d'une couverture du déficit par le budget de l'État. Cependant, il insiste sur le danger d'une telle politique en l'absence d'incitation pour les personnels de la SNCF à minimiser les coûts. Il constate que ces conditions ne sont pas réalisées et il se prononce, dans l'état actuel des choses, pour l'équilibre budgétaire de la SNCF, c'est-à-dire pour une tarification au coût moyen. Enfin, pour couvrir les coûts fixes, il propose des marges proportionnelles aux coûts marginaux. C'est la règle d'Allais, le prix proportionnel aux coûts marginaux. C'est ce dernier aspect qui peut-être a le plus vieilli. Jusqu'à récemment, les péages au-dessus des coûts marginaux basés sur les élasticités de la demande, c'est-à-dire la notion de capacité contributive due à Marcel Boiteux, étaient jugés irréalistes car très manipulables. L'avènement dans les années 90 de la régulation par la méthode des prix plafonds permit enfin la mise en œuvre de la tarification de Ramsay-Boiteux. Je voudrais évoquer brièvement Maurice Sadel, l'académicien. Élu membre de notre académie en 1990, son épée d'académicien lui fut remise en Sorbonne en 1993. Elle est décrite dans son autoportrait. Ses initiales gravées sur cette épée sont elles seules un résumé de sa vie et de ses passions. Familiale, JSC, initiale de son épouse et de sa fille gravée sur le fourreau. Institutionnelle, M pour mine et X pour polytechnique, malgré la blessure de 1959. Philosophique, IC pour imagination créatrice et S pour synthèse, et bien sûr N pour Nobel. Son appétit pour la science en général est traduit par une phase de son épée, ma passion pour la recherche, économie, histoire, physique. Je voudrais maintenant conclure. Cet hommage ne fait qu'ajouter aux nombreux autres hommages que Maurice Allais a reçus. Mais même ses proches ne connaissent pas tous les aspects de sa pensée. Un fonds de documents, lettres, manuscrits, ouvrages annotés de sa main, inédits et couvrant une période de 70 ans, fut laissé par Maurice Allais à son domicile de Saint-Cloud. Sa fille Christine a décidé de mettre entre parenthèses sa carrière au Sénat et au Conseil d'État pour consacrer une année sabbatique au traitement de ce fonds d'archives. Gageons qu'elle y trouvera de nombreux trésors cachés. Permettez-moi de conclure par deux citations qui me semblent bien illustrer la personnalité de Maurice Allais. La première est d'Albert Einstein et fut reprise par Maurice Allais lui-même. Je cite. « C'est une heureuse destinée que d'être envoûté par le travail jusqu'à son dernier souffle. Dans le cas contraire, on souffrirait trop de la bêtise et de la folie des hommes. » La seconde, due à Henri Poincaré, auquel Maurice Allais aimait tant se référer, est gravée sur les médailles du CNRS. « La pensée n'est qu'un éclair au milieu de la nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. » Maurice Allais a connu de nombreux de ces éclairs et a su les faire partager. Mes chers confrères, dire qu'il a honoré notre académie et manié la litote, occuper son fauteuil, me rend humble, fier et profondément heureux.
Ces deux discours que vous venez d'entendre peuvent être lus en intégralité sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr.